Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Marin Muliez, le fondateur de NoFilter, la start-up qui aide les agriculteurs à valoriser tous les fruits et légumes qu'ils ne peuvent pas vendre et ceux qui sont écartés du coup des circuits de la grande distribution. Salut Marin, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Salut Alice, merci de me recevoir.
Et en plus, on se voit en vrai, avant peut-être un confinement.
Un prochain confinement, ouais, je pense qu'il nous pend un peu au nez, celui-là.
Un peu ouais. Au nez. Bon, et toi du coup, en cette période un peu étrange. Comment est-ce que tu fais déjà, bon, j'ai brièvement récapitulé ce qu'était NoFilter, mais je préfère peut-être que tu détailles un peu plus ta startup, ce que vous faites concrètement.
Pour t'expliquer exactement ce qu'on fait, j'aime toujours raconter une petite histoire qui prend place en 2017. Je rentrais d'une expérience professionnelle aux États-Unis et j'avais pour projet de m'engager auprès des agriculteurs français. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps, et je suis rentré et je suis parti rencontrer des agriculteurs et surtout des arboriculteurs et des producteurs de tomates en Touraine qui m'ont accueilli chez eux et qui m'ont expliqué comment fonctionnait leur exploitation, les défis auxquels ils faisaient face et leurs problématiques. Donc c'était vraiment l'étape numéro un de l'entreprise. Et ils m'ont tous tenu un discours qui était assez similaire, c'était qu'ils étaient face à de nombreuses problématiques et notamment une qui est le gaspillage alimentaire. Et ils m'ont montré en fait les bennes remplies de pommes et de tomates dont ils ne faisaient rien parce qu'elles n'étaient pas suffisamment belles pour intégrer les rayons de la grande distribution.
Belles, c'est-à-dire qu'il y a des normes. Il y a des normes pour la grande distribution.
Exactement. Donc, ce sont des normes souvent définies par les acteurs de la grande distribution qui touchent à ce qu'on appelle le calibrage. Donc, c'est la forme, la couleur, le poids d'un fruit ou d'un légume. Et si ce fruit ou légume ne rentre pas dans ce cahier des charges, on l'appelle un écart de tri. Et c'est une pomme ou une tomate, pour prendre ces exemples-là, qui ne peuvent pas
ceux
être vendues.
Ceux qui ont le plus de pesticides, d'ailleurs. C'est vrai que tu prends les exemples qui ont le plus de pesticides. Apparemment, les pommes et les tomates, c'est les fruits et légumes qui ont le plus de pesticides.
Alors, je suis obligée de te dire non.
D'accord, merci.
C'est le raisin.
Bien de dire... C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
C'est le raisin. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé. En fait, c'était le fait qu'on pointe toujours du doigt les agriculteurs pour les pesticides qu'on voit dans leur récolte. En fait, moi, je me suis très rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucun qui était foncièrement pour l'application extrême de pesticides. J'en ai rencontré aucun qui m'ait dit « moi, j'adore asperger mes tomates ou mes pommes de pesticides ».
Pourquoi ils doivent le faire, du coup ?
C'est tout d'abord pour assurer une certaine rentabilité de leur récolte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois pouvoir contrecarrer les aléas naturels les bactéries, ou les insectes qui peuvent venir détruire parfois des pourcentages très élevés de ta récolte. Donc l'usage, on va dire, raisonné d'un certain type de pesticides peut être intéressant, tout en sauvegardant l'environnement et tout en permettant à l'agriculteur d'assurer en fait une certaine productivité pour sa récolte. Donc ça, c'est super important. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs avec qui je travaille sont dans cette logique de réduire l'application de pesticides à leur récolte et sont dans une logique d'apporter davantage de durabilité à leur exploitation, que ce soit l'agriculture bio, qui est une solution, mais aussi tout type d'agriculture raisonnée.
Bon, je t'ai coupé tu me parlais des tomates.
Oui, et du coup, en fait, un des gros sujets qui était le gaspillage alimentaire, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Et c'est là où s'est produit une forme de déclic. C'est-à-dire de voir de mes propres yeux ces bennes qui étaient remplies de pommes qui étaient tout à fait bonnes, de tomates qui étaient tout à fait bonnes, mais qui ne pouvaient pas être vendues telles quelles à cause de ces quelques imperfections, on va dire. Et je leur ai demandé, mais en fait, vous en faites quoi de ces fruits ou de ces légumes? Et ils me disaient, bah, en fait, je ne peux pas les vendre tels quels. Et mon boulot, c'est aussi de trouver des solutions pour vendre ces produits quand même à un prix équitable et pour que moi, je m'y retrouve. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que des gens qui soient aussi passionnés par leur travail, qui soient aussi engagés pour la qualité de leurs produits, ne se retrouvent pas, en fait, dans un travail qui est celui de nourrir la population française, pour parler des agriculteurs que moi j'ai rencontrés. Et en fait, ça a été comme un cri du cœur. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut que tu utilises les moyens qui sont à ta disposition pour trouver une solution à ce problème-là. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, avec vraiment pour idée de construire un business qui soit construit autour des agriculteurs et qui permette de mieux valoriser leur production. Donc, l'étape d'après, à partir de ce constat-là, ça a été de trouver les bons agriculteurs et puis aussi l'artisan transformateur qui serait capable d'apporter de la valeur à ces fruits et légumes. Et la valeur que moi, j'apporte à ces fruits et légumes, c'est la transformation. Donc, c'est le pressage de ces fruits et légumes en jus 100% naturel, artisanaux et made in France. Je trouve ça tellement important de concilier en fait ces deux beaux métiers. Le premier étant celui de l'agriculteur, celui qui cultive la terre, et de l'autre, le métier de l'artisan qui sublime les fruits, les légumes qui poussent à proximité de son atelier. Et moi, j'ai réuni les deux. Je leur ai dit, bah, écoutez les gars, on va construire un modèle qui vous permette de retrouver de la valeur ou de redonner de la valeur à votre exploitation, de redonner de la valeur aussi au métier de l'artisan. Tout ça en permettant au consommateur final d'avoir accès à des produits qui aient du sens, qui soient bons pour la santé et qui soient à impact positif. Super important pour moi de le dire, c'est grâce à nos filtres, on peut aussi consommer de façon saine, mais aussi avoir un impact sur la vie des agriculteurs et la vie des artisans. Et là, tu me parlais en préambule du troisième confinement. L'expérience en fait que je traverse aujourd'hui amène tellement de sens à nos actions depuis maintenant 3 ans.
Tu vois, tu dois avoir en plus un engouement pour la relocalisation des industries, mais aussi pour la demande française de consommer local, français, de soutien aussi à l'agriculture. J'ai eu le fondateur de Mimosa dans l'Empreinte il y a une semaine, enfin on l'a enregistré il y a une semaine, et il me parlait de cette distance qu'il y avait eu depuis quelques années, même quelques décennies, entre agriculteurs et population, et c'était presque en marge, alors que finalement c'est eux qui nous nourrissent, et qu'on délaisse en fait. Et toi, tu es là pour finalement les revaloriser, leur redonner les idées à vivre, parce qu'il y a beaucoup de suicides, tu dois le voir, c'est vraiment un métier, tu le disais, qui est dur, et qui en plus de ça est dévalorisé, qui en plus de ça est pas rentable.
C'est vrai que le portrait que m'ont dressé les agriculteurs que j'ai pu rencontrer de leur exploitation...
C'est plus de la passion, quoi.
Est vraiment assez saisissant pour certains, parce que ce sont vraiment des amoureux de la terre et des amoureux, en fait, du produit.
Et c'est juste pour ça, maintenant, qu'ils le font. Parce qu'en fait, ils en vivent très mal, vraiment. Bah
pour certains, beaucoup même, oui. Il y en a qui en vivent très bien. Mais en fait, moi, je m'adresse à ceux qui en vivent un peu moins bien et qui ont besoin qu'on redonne de la valeur à leur métier. Et c'est pour ça que c'est aussi une affaire d'hommes. Et de femmes, bien sûr. Mais il y a toute la logique de l'humain derrière.
D'humain, voilà. Ouais,
c'est de voir à quel point quelqu'un qui est passionné par son travail peut aussi en vivre correctement grâce au soutien d'initiatives comme la mienne qui peut-être réfléchissent différemment à ce qu'on faisait depuis des dizaines d'années et mettent en place un écosystème qui leur permette de mieux en vivre et de peut-être redevenir un peu plus fiers de ce qu'ils font.
De revaloriser leur production. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que tu prends des gueules cassées, que tu vas sublimer, tu utilises ces termes, sublimer pour les transformer en jus, et tu vas finalement les remettre en grande distribution. Donc,
C'est le petit pied de nez, voilà. En fait. Moi, ça m'amuse aussi. Et d'ailleurs, le nom de nos filters vient de là. J'avais envie de créer une marque qui aille à l'encontre de ce qu'on voit habituellement avec des discours très lisses, des discours marketing, en fait, qui ne collent pas forcément avec la réalité du terrain. Je suis contre, en fait, les strass et paillettes. Et du coup, nos filters, en fait, ça va à l'encontre de ça. C'est de dire, oui, on peut construire quelque chose de beaucoup plus transparent, de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus impactant pour celles et ceux pour qui je m'engage, c'est-à-dire les agriculteurs.
C'est pas le jus bio bobo, en fait, puisqu'en plus, toi, tu ne dis pas qu'ils ont de label bio, puisque tu les
pas
aides,
du tout.
Voilà.
Alors moi, je suis
mais comment tu
pas
les
du
sources
tout positionné là-dessus.
Comment tu les sources? Parce que tu vas quand même faire attention à la qualité du produit, puisque c'est ton produit et que tu veux pas intoxiquer, je suppose, le consommateur. Donc,
bien
tu fais attention.
Alors, je vais juste faire une petite parenthèse,
ouais,
parce que l'histoire de la bio, c'est super important. À l'origine du projet, je m'adressais uniquement aux agriculteurs bio. Et puis, en fait, je me suis dit qu'il y avait un non-sens que de m'adresser uniquement à ces agriculteurs-là. Pourquoi? Parce que ces agriculteurs représentent moins de 10% en fait, des agriculteurs en France. Et moi, je compte m'adresser à l'ensemble des agriculteurs. Et tous les agriculteurs cherchent à améliorer leur mode de production.
Oui, et puis moi, pour avoir travaillé aussi en retail, le problème, c'est qu'avoir un label bio, ça coûte très cher. Et donc, si toi, tu es dans la démarche et des ceux qui ne gagnent pas forcément le mieux, logiquement...
Bien sûr. Et c'est aussi un des gros défis, au-delà du gaspillage alimentaire auquel je m'attaque, qui est celui de la transition écologique. Donc, en plus de trouver des solutions de valorisation pour les écarts de tri et les invendus, nous, on s'engage à rémunérer équitablement l'agriculteur pour qu'il assure sa transition écologique, que ce soit la conversion vers l'agriculture bio ou l'agriculture raisonnée, qu'on peut résumer sous une certification qui est reconnue par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle la haute valeur environnementale, avec énormément de critères, mais dont le principal est la fréquence de traitement de pesticides qui doit être inférieure à un certain niveau selon la variété de fruits et légumes que tu cultives. Donc ça, c'est super important, c'est qu'on est attaché aussi à la qualité du produit et on amène toute la filière agricole vers quelque chose de plus durable pour que le consommateur ait accès à des produits qui aient un impact positif sur leur santé à eux, mais aussi la santé des agriculteurs et la santé de notre planète.
À quel prix, du coup, tu vends ces jus?
Alors, ça dépend du format, parce qu'on a plusieurs
combien
formats.
Tu reviens, ouais.
Mais en grande distribution, les formats de 75 centilitres, on peut les retrouver à 2,99. Ce qui est à peu près dans la moyenne de ce qu'on observe sur les jus, les 100% pur jus artisanaux.
Et pourtant, toi, tu arrives, comme c'est comme ça, à avoir un cercle vertueux, à la fois rémunérer l'agriculteur, te rémunérer, enfin rémunérer nos filters et avoir un prix accessible. C'est quand même compliqué comme...
C'est, on va dire que c'est une question d'équilibre. C'est une question de rémunérer chacune des entités qui participent à la création du produit de la façon la plus équitable possible pour que chacun puisse en vivre correctement, tout naturellement. Nos filters, bien entendu, a une part rémunérée dans cette activité parce que c'est important de réconcilier un but, on va dire pas lucratif, mais juste un but pour en vivre et soutenir les causes pour lesquelles on s'engage, c'est-à-dire pour moi, en l'occurrence, le métier de l'agriculteur et le métier de l'artisan.
Et en termes de produits, les recettes, du coup, j'imagine que tu vas vers des produits de saison. Donc, est-ce que tes recettes changent au fur et à mesure de l'année?
Ouais, alors ça a été super intéressant, en fait, d'arriver à convaincre les acteurs de la grande distribution à adhérer à ce discours-là. Nos productions varient selon la saison. Et même d'une année à l'autre, varie de façon assez conséquente. Il y a un an, par exemple, notre jus de tomate avait une part assez importante de tomates cerises. Parce qu'à cette époque, j'avais reçu des coups de fil de la part de certains partenaires agricoles qui m'avaient dit « on a plusieurs tonnes de tomates cerises à valoriser ». Donc, on avait constitué une recette avec de la tomate cerise. Et il y a 2 ans, en fait, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de tomates cerises. Mais c'est toujours vendu sous le terme jus de tomate, no filter. Et c'est là où c'est super intéressant.
C'est la surprise, finalement. On n'a jamais le même goût.
Oui, c'est un peu une surprise, mais c'est aussi la beauté de la nature. La nature, elle est ultra diverse. Il y a des centaines de variétés de fruits et légumes. Et je trouve ça intéressant aussi de communiquer sur cette variété et sur cette diversité qui fait la richesse de la nature. Donc, c'est pareil pour notre jus de pomme et notre jus de carotte. Donc, ça participe aussi à l'aspect no filter de la chose.
C'est et du que coup, ça on varie. On pourrait pas retrouver de fruits exotiques.
Ah non, voilà. non, parce que je m'adresse uniquement aux agriculteurs français. Je trouve ça important de rester dans quelque chose de local. Et quand je dis local, pour moi, je me contente d'une production française. Je vais pas jusqu'à dire que ça doit être vendu à moins de 50 km de là où ça a été produit, parce que d'un point de vue économique, c'est très difficile à mettre en place si on compte s'adresser à l'ensemble des agriculteurs français.
Et une volonté d'aller vers l'international ou pas du tout?
Alors oui, mais ça se fera étape par étape et surtout de façon, on va dire, multilocale. Le modèle qu'on a construit en Touraine avec l'un de mes associés qui a son atelier de transformation là-bas, part du principe que les fruits et légumes qui seront transformés dans cet atelier seront sourcés à proximité de l'atelier, donc on va dire la région Grand Ouest. Mais on est déjà en train de travailler sur la duplication de ce modèle dans d'autres bassins de production, dans le Sud-Ouest et en Provence, pour pouvoir toucher d'autres variétés de fruits et légumes. Et tout en nous adossant à d'autres artisans qui sont implantés dans ces bassins de production, pour rester dans quelque chose de local et de duplicable. Et donc, du coup, à l'international, ce serait de reproduire ce modèle. On a déjà été contacté par des coopératives d'agriculteurs en Russie, notamment, et puis aussi aux États-Unis, qui sont venus visiter nos installations et qui nous ont dit « Mais c'est hallucinant ce que vous faites. » Et ils veulent qu'on les accompagne dans la construction de nos filters à l'international en utilisant les fruits et légumes que eux produisent et en nous adossant à des artisans qui peuvent apporter de la valeur à ces fruits et légumes qui sont écartés des circuits de la grande distribution.
En Russie, ils avaient peut-être un petit peu de vodka dans nos filtres. Attention, on fait de l'ultra local, on soutient tous les producteurs. Ah,
c'est marrant que tu me parles de ça parce que eux ont été, mais ils sont tombés amoureux de notre jus de tomate.
C'est vrai.
Et alors je sais pas s'ils ont mis de la vodka dedans de leur côté, mais on leur a fait goûter le jus de tomate nature et ils ont trouvé ça vraiment super bon parce que justement on n'y ajoute rien. C'est vraiment
et que surtout les tomates sont bonnes. Moi, encore récemment, je me dis mais ça n'a plus aucun goût les tomates. Il y a qu'en Toscane chez moi que j'arrive à retrouver des tomates qui ont du goût. Je trouve qu'elles perdent un goût. Et toi, tu arrives à finalement sourcer quand même des produits qui ont quand même beaucoup de goût. Peut-être qu'ils sont moches, mais ils ont beaucoup de goût.
Oui, parce que je fais attention aux gens avec qui je travaille. Et puis, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer des personnes qui ont des compétences qui te sont complémentaires, on va dire. Et moi, en fait, je n'avais quasiment aucune connaissance du monde agricole, même si l'héritage de ma famille m'a inculqué ce respect pour la terre. Mais d'un point de vue technique, en fait, moi, j'y connais rien. Je suis pas ingénieur agronome.
Non, mais je disais quand même que tu étais un peu passionné par le vin, non?
Oui, alors j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, en fait. C'est mon papa qui a racheté plusieurs exploitations viticoles dans le Médoc après avoir travaillé en banque pendant 15 ans. Il s'est réveillé un matin, il s'est dit ouais, « Tu sais quoi, j'en ai marre en fait de ne pas retrouver beaucoup de sens dans ce que je fais. » Il a tout plaqué il a racheté des exploitations viticoles près de Bordeaux. Et moi, ça m'a toujours fasciné en fait, ce goût pour l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en lien avec la terre, parce que pour moi, ça me permet d'y associer des valeurs très, très authentiques que tu retrouves dans ce que je crée aujourd'hui, des valeurs plus humaines et plus respectueuses de la terre. Et c'est vraiment ça qui me guide au quotidien. Et je m'inspire, c'est vrai, de ce que lui a fait dans le vin pour réaliser un écosystème qui soit vraiment en lien direct avec les agriculteurs.
Et quel âge a nos filters maintenant? Vous êtes combien?
Alors, nos filters a bientôt 4 ans. On a lancé notre première bouteille il y a 2 ans, parce que j'ai passé vraiment 2 ans à concevoir l'écosystème et je suis parti tout seul il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on est une petite dizaine. Donc, avec des gens qui sont experts dans la production agricole, à des gens qui sont experts dans les process de transformation, des gens qui sont experts dans la commercialisation et dans le marketing des produits. Et moi, en fait, mon rôle, de plus en plus, il est de m'assurer de la cohérence de l'ensemble, de rassembler, de fédérer toutes ces personnes autour d'un but commun, qui est de rendre cette marque la marque responsable du soutien aux agriculteurs. On est en train de travailler sur quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur depuis 8 mois, parce que j'avais envie d'aller encore plus loin dans cette logique de soutien à l'agriculteur. Et je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux te distinguer de discours que tu as déjà entendus qui disent bien rémunérer l'agriculteur, se soucier d'apporter quelque chose de pur au produit. Et en fait, je me suis dit, tu t'engages auprès des agriculteurs et la réponse que tu vas leur apporter, c'est de les intégrer également au capital de ta structure pour que ça devienne aussi leur marque à eux. Et ça fait 8 mois qu'on travaille sur cette stratégie-là et ça fait 8 mois qu'on travaille avec les partenaires agricoles avec qui je travaille pour les intégrer au capital de ma boîte et de leur dire, bah, tenez, c'est aussi un peu à vous. Et c'est pour ça que le message que je défends, qui est la marque des agriculteurs, prend encore plus de sens parce que oui, ça va pouvoir être justifié par quelque chose de très concret qui est la structure capitalistique d'une boîte.
Tu es à l'encontre de Nicolas Chabanne qui fait la marque des consommateurs, toi tu fais la marque des agriculteurs.
Ouais, c'est assez drôle, c'est que on se bat pour le même genre d'engagement.
Bien sûr.
Mais je pense qu'on a une vision différente d'un point de vue opérationnel. Moi, je m'attache vraiment à la cohérence de l'ensemble et de la place de l'agriculteur. Et j'ai choisi tout simplement une autre voie. Je suis convaincu par la voie que moi, je mène, sans pour autant dire que lui fait quelque chose en quel je ne crois pas. C'est juste deux visions différentes de la construction d'un écosystème avec un entrepreneuriat engagé. Et c'est là où on se rejoint. C'est vraiment l'engagement dans l'entrepreneuriat.
Et du coup, les prochains challenges pour nos filters, c'est surtout du côté retail.
Exactement.
Réussir à être mis en magasin.
Exactement. Alors, tout est un peu lié. On a beaucoup parlé de nous pendant les confinements qu'on a traversés parce qu'on faisait partie des rares marques à agir et à soutenir les agriculteurs dans cette dure période. On a valorisé plusieurs tonnes de fruits et légumes pendant cette période-là parce qu'on recevait des appels quasiment tous les jours de la part de nos partenaires qui nous disaient en fait, on ne sait pas quoi en faire de ces fruits et légumes. Du coup, nous, on a vraiment agi. Et du coup, notre boulot, c'est aussi de rendre accessibles ces produits. Et on a eu la chance d'être acceptés et de voir Carrefour valider notre mission.
Coucou Bertrand.
D'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et ça a toujours été des discussions super enrichissantes. Oui, Carrefour est le tout premier acteur de la grande distribution à avoir validé nos produits et nos engagements. Et du coup, on est chez eux depuis octobre de l'année dernière. Donc, c'est tout récent. Mais pour moi, c'est un énorme pas en avant parce que ça permet de rendre ultra concrète la mission que je me suis fixée. C'est bien d'avoir de belles idées, c'est bien de dire je m'engage, c'est bien de dire je travaille à intégrer les agriculteurs au capital de ma structure. Mais il faut que le concept soit validé par le consommateur parce qu'à la fin, c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Et voir mes produits en rayon, je t'avoue que ça m'a fait un petit quelque chose. Je me suis dit, OK, là, on est dans quelque chose de vrai. Mais ça faisait 4 ans que je bossais sur un truc qui me prend aux tripes, quoi. Et que le produit fini, qui est l'expression de tous ces engagements, soit validé par des consommateurs et qu'ils reviennent acheter en plus.
Même si c'est pas les mêmes tomates.
C'est pas les mêmes tomates, c'est pas les mêmes carottes, c'est pas les mêmes pommes, c'est pas les mêmes concombres.
Vous avez mis un peu de patates dans celui-là, il nous restait un peu de.
Alors, pommes de terre, pas encore, mais on est en train de travailler sur le développement d'autres produits.
Plutôt des soupes.
Oui. Tout à fait, soupe, puis. On est en train de travailler
sur... Parce qu'un jus de patate, faudrait vraiment me convertir au jus de patate.
même pas en rêve, je ne développerai pas
patate
ça.
Patate kiwi. Ah oui, c'est un peu... Non, kiwi, quoi que...
Kiwi, on est en train d'y réfléchir, parce qu'on travaille avec des producteurs qui récoltent des kiwis, mais bon, ce sera chaque chose en son temps, mais l'idée, c'est aussi, tu vois, d'aller au-delà du jus. Moi, je me suis lancé avec le jus parce que c'était peut-être le moyen le plus simple de...
Et concret, comme tu disais aussi. Tu vois ton produit presque transformé. Ouais.
Voir le produit transformé. Et ça, c'est... à mes yeux, ça n'a pas de prix parce que je vois, quand je vois une bouteille, oui, je vois un jus, mais je vois tout le travail qui a été accompli derrière et aussi l'impact que ça a sur l'agriculteur. Et je le vois aujourd'hui, après 4 ans, tu vois, il y a certains des agriculteurs avec qui je travaille qui ont pu récolter l'année dernière leur toute première pomme certifiée bio, qui est un process qu'ils ont lancé il y a plusieurs années. Mais tu vois, déjà, à notre petite échelle, on voit l'impact, on voit la meilleure rémunération, on voit l'implantation de modes de production plus responsables. Et ça me prouve que oui, c'est possible, que ça a un sens et que ce discours et que ce produit est validé par le consommateur. Et du coup, oui, je suis super content aujourd'hui, même s'il y a encore plein de choses à faire.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Eh bien, alors pour cette année, alors malgré la crise sanitaire qu'on traverse, tu pourrais me souhaiter de rendre accessibles mes produits à beaucoup plus de Français.
Tiens, justement, je te coupe là. Je suis un auditeur de l'empreinte. J'ai envie de tester un Juno Filter. Et si je n'ai pas de Carrefour à côté, comment est-ce que je fais ?
Alors, c'est très simple. Tu peux aller sur notre site internet. Et on vient, d'ailleurs, c'est marrant, on vient tout juste de mettre en ligne une lettre que chaque consommateur peut imprimer et déposer dans la boîte à idées des magasins dans lesquels il ne nous trouve pas. Aujourd'hui, on est surtout en région parisienne, on est dans l'intégralité des Carrefour City et Carrefour Market de la région parisienne. On est en train de se développer dans les régions dans lesquelles on produit, mais on a aussi besoin de celles et ceux qui croient en nos engagements. Et je pense qu'on est chacun responsable de nos actes d'achat et on a chacun presque la responsabilité d'agir pour ce en quoi on croit. Et du coup, si tu as envie de nous faire confiance et si tu crois en notre mission, j'ai envie de te dire, tu peux avoir ton petit impact et tu peux toi aussi avoir un rôle dans l'accessibilité rendue de nos produits au plus grand nombre.
Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors ?
Je vous remercie d'avance, et c'est bien ça ce qu'on dit.
Et puis tous les retailers aussi de pouvoir écouter Marin et puis goûter les jus et puis les mettre en rayon aussi. Hein.
Parce qu'il n'y a rien de mieux que la preuve par le produit. J'ai jamais convaincu personne sans faire goûter les produits et j'adore regarder le visage des gens qui dégustent nos produits. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est comme s'ils redécouvraient ce à quoi devrait ressembler un pur jus de fruits et légumes. Et moi, ça m'a toujours marqué dans les dégustations qu'on a faites, de voir le visage s'illuminer des personnes qui disaient « Attends, mais c'est ça un jus de tomate ?» ou « C'est ça un jus de pomme ?»
Ça a le goût de la tomate.
En fait, c'est juste qu'on n'a rien mis d'autre. Et ça, c'est assez fascinant et ça prouve qu'on est dans le vrai et qu'on fait les choses sans filtre, qu'on fait les choses avec beaucoup d'authenticité. Et ça, c'est un discours que les gens captent et auquel les gens adhèrent.
Bah merci Marin.
Et je t'en prie, merci à toi Alice.
Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Marin. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.